Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now.
Bonjour tout le monde. I'm your host, Jessica, and I'm very excited to welcome you for this first episode of French Voices, where I interview native French speakers who have a story to share. As a passionate French teacher, my goal is to help you improve your French listening skills with this very special series of interviews. Go to the show notes of this episode at frenchvoicespodcast.com/episode1 and you will get the full transcript of the interview and also a list of vocab specific to the theme of this episode and French comprehension questions that I've organized into two levels of difficulty. For my recommendation on how to best use this podcast according to your level, start with listening to episode 0 or check frenchvoicespodcast.com/episode0. Anaïs Duchet is a passionate translator and adaptator for the TV and film industries. She's currently creating the French subtitles for the famous The Walking Dead series. Our conversation could have lasted for hours because it was really fascinating to talk about the multiple requirements that come with translating oral French to written French in a limited time and space. And there's more, from confidential clauses to marketing decisions and what put the profession at risk, we've tried to give a good overview of the world of translation. Here are a few specific words to help you with your listening of this interview. Feel free to repeat them after me if you find this is helpful for you. A subtitle is un sous-titre. Sous-titre. To broadcast, to distribute, that's diffuser. Diffuser. The broadcasting or the distribution is la diffusion. Diffusion. The pirating, the action of hacking. Le piratage. Piratage. To dub and to do the voice of someone. Doubler. Doubler. And the dubbing itself is called le doublage. Le doublage. Anaïs, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous avez accepté de témoigner pour faire connaître une profession qui est assez méconnue du grand public. De quelle profession s'agit-il ?
Alors, il s'agit de la profession de traducteur-adaptateur de sous-titrage. On a différents noms pour ce métier, de traducteur, pour de traduire d'une langue à une autre, mais aussi adaptateur, puisqu'il y a une très grande part d'adaptation dans le travail que l'on fait de traduction. Et puis, on est aussi auteur en France, on est auteur aussi quand on est traducteur, donc on se dit aussi quelquefois auteur de sous-titrage.
Auteur de sous-titrage, est-ce qu'on peut dire sous-titreuse également ?
Oui, on peut aussi dire sous-titre, effectivement. Oui, donc il y a beaucoup de noms différents à notre métier.
Vous traduisez quel type d'œuvre audiovisuelle ?
Alors, c'est très varié. On fait beaucoup de choses différentes. En général, on se partage donc entre la fiction et le documentaire. Quand c'est de la fiction, donc moi, dans mon cas, c'est du sous-titrage, de séries télévisées, de films. Et puis de films d'animation quelquefois, et puis en documentaire, c'est un type différent de traduction. Quand on traduit les documentaires, c'est ce qu'on appelle la traduction de voice-over, donc le terme anglais que l'on reprend, et puis en documentaire, il y a également du sous-titrage quelquefois.
Donc voice-over, c'est le doublage ?
C'est le doublage de documentaire uniquement, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un faux doublage, dans le sens où dans le doublage de documentaire, on n'est pas obligé de respecter le mouvement des lèvres, on a moins de contraintes qu'en doublage de fiction, où là, c'est du doublage synchro-labial, comme on dit, et qui se doit de respecter le rythme des phrases et strictement le mouvement des lèvres. En doublage de documentaire, on est plus souple, puisqu'on a une voix qui vient parler au-dessus de la voix d'origine, que l'on met en très très bas dans la version française, et on parle par-dessus, un comédien parle au-dessus, et à ce moment-là, donc c'est un doublage un peu particulier avec moins de contraintes.
Donc vous voulez dire qu'un même film sera traduit différemment selon qu'il est sous-titré ou selon qu'il est doublé?
Oui, absolument. Ça n'est pas le même travail, il n'y a pas les mêmes contraintes. Donc la traduction ne va pas du tout être la même. Ce sont des professions, disons, cousines, mais pas tout à fait superposables. C'est un travail différent qui demande une forme d'esprit assez différente. En doublage, on doit être très créatif, beaucoup réécrire, puisqu'on n'a plus l'original, donc on a toute la liberté de réécrire. Évidemment, on essaye de respecter le sens d'origine, évidemment. Mais alors qu'en sous-titrage, on est sans arrêt en train de coller à l'original au maximum, au rythme et à ce qui est dit, puisque dans la version diffusée, on aura quand même la langue d'origine, donc on est beaucoup plus contraint au niveau du sens et on a des contraintes très fortes en termes d'écriture, puisqu'on est sur de l'écrit et qu'on doit respecter des normes, donc de maximum 37 caractères par ligne et on a droit à maximum 2 lignes. Et on a un temps de lecture qui nous est imposé et qui nous impose un nombre maximum de caractères par sous-titre.
Ah, est-ce que vous pouvez développer ça un petit peu? Vous dites que vous avez un nombre imposé de caractères pour traduire un sous-titre, c'est ça?
Oui, bien sûr. Alors oui, selon qu'une phrase va être dite vite ou lentement, on va avoir droit à un nombre différent de caractères pour la traduire, puisque il est calculé que l'œil humain dans un contexte de confort, de lecture, de loisir dans un film va lire à peu près 15 caractères en 1 seconde, enfin plutôt 15 signes, puisque le signe c'est la mesure des caractères avec les espaces compris, on compte aussi
Espace
les
compris.
espaces. Donc
D'accord.
voilà, on a droit à 15 caractères par seconde d'apparition du sous-titre. Donc si par exemple je dis très lentement oui, merci, là je vais avoir toute la place que je veux pour traduire. Par contre, si on dit une phrase très rapidement, si le personnage dit une phrase très très rapidement, je vais avoir droit, par exemple, s'il dit 2 phrases en 2 secondes, ben, je vais être obligée de me débrouiller pour traduire le maximum de l'idée en seulement 30 caractères. 2 secondes égale 30 caractères.
D'accord, donc vous pouvez complètement modifier la phrase, mais seulement en gardant le sens, c'est ça?
Voilà, on est obligé, quelquefois on est obligé de faire des choix, on ne peut pas tout écrire dans un sous-titre à cause de ce temps de lecture. Si on écrivait tout, le spectateur aurait simplement pas le temps de lire. Donc on doit faire des choix, quelquefois on doit hiérarchiser l'information, décider ce qui est important, ce qui est moins important pour l'intrigue, pour l'histoire, pour le dialogue. Et quelquefois on doit essayer de condenser, de rendre les choses de façon très concise le plus possible. Donc ça nous oblige quelquefois à faire avoir des réflexes quelquefois. Alors par exemple en sous-titrage on écrit très rarement malheureusement qui est un mot très long, on écrit hélas qui est un mot très court.
Et qu'on n'utilise pas beaucoup à l'oral, en
Voilà,
fait.
qu'on n'utilise pas beaucoup à l'oral, mais la chance qu'on a c'est que justement comme nous on retranscrit de l'oral mais à l'écrit, donc ça nous oblige aussi à ajuster un petit peu le registre de langue puisque on n'écrit pas comme on parle. Et donc, quelquefois, même quand on retranscrit, on traduit des dialogues familiers, on va faire des choses, faire des choix qui paraissent étranges et qui ne seraient pas les mêmes si on restait sur de l'oral. Par exemple, on va mettre les NE de négation, ne pas, alors qu'à l'oral, on a tendance à ne pas les mettre quand on parle dans du dialogue courant. Donc, à l'écrit, on va les mettre, parce que sinon, ça va faire trop familier de ne pas le mettre. Donc il y a un problème d'ajustement du niveau de langue entre l'oral et l'écrit. Ça, c'est une des choses aussi très particulières au sous-titrage.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'œuvres audiovisuelles sur lesquelles vous travaillez?
Oui, alors je travaille actuellement en série télévisée. Je travaille sur 2 séries. Une série qui s'appelle The Newsroom, qui est une série HBO, qui se passe dans une salle de rédaction d'une chaîne d'information. Et puis, je travaille aussi également sur une série que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle The Walking Dead, une série américaine, de zombies.
Quand on s'est parlé avant d'enregistrer cette interview, vous m'avez donc révélé quelques anecdotes assez intéressantes sur la tradition de The Walking Dead. Est-ce que vous pouvez les partager avec le public?
Oui, bien sûr. Alors, la particularité de séries comme The Walking Dead en France, et d'ailleurs maintenant c'est le cas aussi pour l'autre série The Newsroom sur laquelle je travaille, c'est que ces séries sont diffusées en France avec un délai qui est extrêmement court. Elles sont diffusées en France avec des sous-titres français le lendemain de la diffusion américaine. Ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que les spectateurs français sont autant que les Américains ou les Australiens sont fans de séries et n'ont pas envie d'attendre très longtemps pour avoir leur série diffusée. Et la deuxième raison, c'est évidemment pour lutter contre le piratage, ce qu'on appelle le fan subbing, qui est une sorte de sous-titrage illégal fait par des fans qui prennent les vidéos, des vidéos qui ne respectent pas le droit d'auteur, qui sont des vidéos téléchargées illégalement, et qui font des sous-titres qui sont, disons, amateurs, qui ne sont pas des sous-titres professionnels. Et pour lutter contre ça, les chaînes françaises, en fait, ont pris des mesures et elles essayent de satisfaire le public en offrant très rapidement après la diffusion américaine des épisodes diffusés avec des sous-titres professionnels. Alors ça nous oblige à travailler de façon un peu particulière, alors que d'habitude je travaille chez moi, de chez moi, sur mon ordinateur, avec des vidéos que mon client m'envoie par des services de téléchargement. Là, je suis obligée d'aller travailler directement dans le laboratoire de sous-titrage chez mon client, puisque je reçois les vidéos pour travailler dessus environ 2 à 3 semaines avant la diffusion américaine. C'est-à-dire que personne encore au monde n'a vu ces épisodes. Et donc, ça veut dire que, voilà, les Américains ayant très peur justement que les vidéos soient piratées, qu'il y ait des fuites, je dois signer des contrats de confidentialité et aller travailler directement dans le laboratoire, moi j'appelle ça le bunker, là où je travaille, c'est-à-dire c'est une pièce sans fenêtre où mes
Ah
ordinateurs, sur
oui.
les ordinateurs, nous n'avons pas Internet, puisque pour qu'il n'y ait aucun risque que nous ayons des fuites. Et donc voilà, c'est un mode de travail un peu particulier, mais ça a un côté un petit peu exaltant parce que je sais que j'ai la chance de voir les épisodes et les vidéos avant tout le monde, et même avant les Américains.
Bon, rassurez-moi, il ne vous séquestre pas jusqu'à la sortie de l'épisode.
Heureusement, je peux rentrer chez moi le soir, et on me fait confiance. On sait que voilà, on me fait confiance en tant que professionnelle pour ne pas faire sortir les images. On me surveille pas plus que ça, mais on considère que en tant que professionnelle, évidemment, moi je n'ai aucun intérêt à faire fuiter ces épisodes. Je pense qu'on retrouverait très vite ma trace, on saurait tout de suite que ça vient de moi. Donc moi, si je veux garder mon client, je n'ai aucun intérêt à faire ça.
Alors, vous avez mentionné traduire des films d'animation et j'ai vu sur votre site internet, vous mentionnez Opération Casse-Noisette, en anglais The Nut Job. Est-ce que vous l'avez traduit?
Oui, j'ai fait les sous-titres français oui, pour la version qui sortira sans doute en DVD, puisque en France le film est sorti le 6 août, mais il n'est pas sorti du tout en version originale sous-titrée, puisque c'est un film pour les enfants. Donc la version que j'ai faite en sous-titres servira pour le DVD, et donc c'est uniquement la version doublée française qui est en salle actuellement en France.
Ah oui, voilà, je trouvais ça surprenant parce que les films d'animation sont souvent destinés à un public jeune et qui ne sait pas forcément lire, donc
Voilà.
ça explique. Mais j'ai l'impression que le public français quand même a tendance à bouder les sous-titres en général et à préférer les films doublés. Est-ce que vous confirmez cette tendance?
Oui, en partie, c'est-à-dire que traditionnellement, la France, c'est un pays de doublage, comme toute l'Europe du Sud. Ça paraît sûrement étrange dans d'autres pays, mais la France a toujours eu une tradition du doublage, avec une industrie même du doublage, qui est une grande industrie. Il y a énormément de comédiens de doublage en France, et de directeurs artistiques qui supervisent ces doublages, et donc d'auteurs de doublage. Et c'est une tradition qui perdure, puisque à la télévision française, la plupart des émissions, des fictions proposées sont proposées en version française doublée. Mais les choses sont en train de changer, les habitudes évoluent, les mentalités évoluent avec la mondialisation, avec l'accès qu'on a aujourd'hui très large à des langues étrangères, l'envie d'apprendre des langues étrangères qui
Oui.
grandit. Et puis c'est vrai que c'est un très bon outil pédagogique d'avoir des films en version sous-titrée. Donc maintenant, il y a une offre qui se développe de plus en plus en sous-titrage en France, avec un système qui existe maintenant sur les télévisions, les systèmes de choix multilingue pour un même programme en fait à la télévision, on peut avec sa télécommande régler de façon à avoir la VO ou la VF, on peut avoir le choix entre les deux et ça de plus en plus de chaînes maintenant proposent des séries et des films avec le choix.
Ah, très bien, très bien. Je vous confirme, oui, en Australie, les films sont sous-titrés. Vous auriez une belle carrière à faire là. Quand je suis arrivée, j'étais étonnée que tous les films soient sous-titrés, même sur les grandes chaînes populaires, hein, parce que les films sous-titrés en France, c'est plutôt sur les chaînes intellectuelles, hein, on va dire. Mais c'est très choquant ici, par contre, d'avoir les d'avoir de poser des fausses voix, hein, sur les voix originales des acteurs.
Oui, c'est sûr que si on a, si, quand, 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 c'est, quand on n'a pas cette tradition, ça paraît totalement bizarre de faire ça. On se demande un peu qu'est-ce que c'est cette pratique étrange. Mais voilà, quand on a toujours eu l'habitude, quand on est français, c'est vrai que ça fait partie de notre culture un petit peu. Même si, bon, moi personnellement, je préfère évidemment voir les films en version originale. Mais c'est encore une pratique qui est assez répandue en France et encore plébiscitée par le public. Même si évidemment ça évolue. Et maintenant même les chaînes comme TF1 et M6 proposent leurs séries d'heures de grande écoute, de prime time comme on dit en bon français, proposent avec le choix entre la VO et la VF.
Oui, ce qui n'aurait pas été pensable, je pense, il y a quelques années encore, où lire les sous-titres était trop fastidieux pour une activité de détente du soir.
Oui, c'était considéré comme fastidieux.
Ouais.
Pas parlé par les gens, mais ça, voilà, la mentalité des spectateurs maintenant a beaucoup évolué.
Et donc, il y a tellement de films, séries et documentaires sur le marché. Est-ce qu'on peut dire qu'il est facile aujourd'hui de trouver du travail dans ce domaine de la traduction-adaptation et de bien en vivre?
Alors oui et non. Moi, j'ai la chance de bien en vivre personnellement, donc je vais pas dire que c'est impossible d'en vivre et d'en vivre plutôt bien. Malheureusement, parallèlement à l'augmentation de l'offre, il y a aussi une augmentation très forte et plus forte encore de la demande, c'est-à-dire que c'est une profession qui est devenue un peu à la mode, disons que de plus en plus de personnes ont envie de faire ce métier, mais c'est un métier qui n'offre pas des débouchés énorme parce que c'est une petite profession en France. Ça concerne, mettons, c'est difficile d'avoir des chiffres parce qu'on est tous indépendants, on travaille en freelance, donc c'est difficile de compter le nombre de personnes qui vivent de cette profession. Mais ça doit faire pas plus de 500 personnes en France. Et
D'accord.
maintenant, beaucoup de formations, de master pro se sont ouverts et proposent aux étudiants de se former à ce métier alors que il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc malheureusement, ça crée un peu des embouteillages dans la profession et ça met un peu en danger le métier parce que ça fait baisser les tarifs puisque les tarifs sont libres.
D'accord. Et comment ces tarifs sont-ils définis? Est-ce que c'est par rapport à la longueur du film, au nombre d'heures que vous passez dessus?
Alors, ça dépend. Historiquement, on était payé au sous-titre. Le sous-titre étant une unité assez étrange, mais à la fois assez juste. Un sous-titre, ça peut être un seul mot, par exemple bonjour ou merci, ou bien ça peut être deux phrases, quelquefois deux lignes de texte. Alors, donc c'est assez variable. On ne met pas évidemment le même temps pour traduire un sous-titre ou un autre, mais globalement sur la durée totale du programme, on considère que plus un film a de sous-titres, plus il est bavard, donc plus il va demander de travail, exiger du travail. Donc ça paraît la mesure la plus juste pour rémunérer les auteurs. Alors ça existe toujours en sous-titrage pour le cinéma, qui est un marché un peu à part, qui est un marché qui est avec plus de budget. Donc en général, on est mieux payé quand on travaille pour le cinéma. Et ensuite, le sous-titrage télévision, donc tout ce qui est les séries, les films, quelquefois les films télé, les films qui ne sont pas sortis au cinéma et qui sont diffusés directement à la télévision ou en DVD. Là, les tarifs ont un petit peu baissé et maintenant, ils ont tendance à être payés au forfait, c'est-à-dire on est payé soit à l'épisode, un épisode faisant en général 43 minutes, soit à la minute de programme.
Vous avez été présidente de l'ATA,
Oui,
c'est ça? Est-ce que vous pouvez présenter un peu cette association?
Oui, bien sûr. Alors, l'ATA, c'est un projet que j'ai porté depuis sa création. Je faisais partie des membres fondateurs de cette association au tout début, donc c'était en juin 2006. C'est une association donc professionnelle, association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel. C'est une association que nous avons créée parce que nous avons senti un besoin de défendre un peu le métier qui n'allait pas très bien à l'époque. Et déjà, on sentait des baisses de tarifs, une menace sur la profession, des menaces de délocalisation également. On nous parlait d'aller embaucher des gens qui travaillaient dans des pays très pauvres, à niveau de vie très bas, pour avoir des tarifs imbattables. Et puis, on a eu le besoin, on a ressenti le besoin de se fédérer, de s'unir, les traducteurs, puisqu'on est très isolés, on travaille chacun tout seul chez soi. Donc, c'est difficile d'avoir conscience que, par exemple, quand on accepte un tarif qui est assez bas, déjà avoir conscience que c'est un tarif bas par rapport au marché, et avoir conscience que si on accepte ce tarif bas nous-mêmes, ça risque de porter préjudice aux autres auteurs qui travaillent d'habitude à un tarif supérieur. Ça risque de ramener le tarif vers le bas pour tout le monde. Donc voilà, s'informer, communiquer, aller essayer de passer outre la concurrence, puisque nous sommes des concurrents, mais essayer de comprendre que nous avons des intérêts communs à communiquer, à échanger des informations, et ensuite à essayer de promouvoir le métier, qui est un métier de l'ombre. C'est un métier qui est très mal connu. Ça commence un petit peu à être connu. Il y a quelques articles qui sont sortis dans les médias récemment, surtout grâce au sous-titrage qu'on appelle US plus 24, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ça reste un métier de l'ombre, et comme nous sommes seuls et isolés, nous avons besoin de promouvoir le métier, de le mettre en lumière, et donc nous avons essayé d'organiser des initiatives en direction du public, des médias, et puis aussi des institutions qui nous représentent, les sociétés de droit d'auteur qui nous représentent, qui nous connaissaient très mal, et puis également les universités qui font des formations, donc pour expliquer aux étudiants, aller voir les étudiants dans les formations pour leur expliquer un peu la situation et les mettre en garde contre les dangers, les pièges quand on débute. Et puis aussi donc auprès du grand public, la plus belle initiative que nous avons organisée, qui continue à vivre à ce jour, c'est la création de prix du doublage et du sous-titrage, un peu comme des Oscars. Voilà, donc on organise ça, c'est uniquement évidemment pour faire parler de nos métiers et sous un jour positif. Et donc nous avons des jurys de professionnels qui visionnent des films et qui ensuite votent pour élire le travail qui est selon eux le meilleur sur l'année considérée.
Ah, donc c'est une reconnaissance du travail de traducteur.
Oui.
Qu'est-ce que vous gagnez? Donc une palme, une statuette? Qu'est-ce que c'est?
Alors oui, on aimerait demander peut-être à une école d'art de faire un concours pour avoir peut-être une statuette un jour, on ne sait pas, ou une coupe ou quelque chose. Pour l'instant, c'est uniquement un petit diplôme encadré que l'on offre aux lauréats. Un diplôme, en fait, dont le graphisme rappelle les intertitres des films muets, avec des espèces de petits dessins dans le cadre du texte, si certains de vos auditeurs ont déjà vu des films muets avec des intertitres. Et puis, on offre une bouteille de champagne à chaque lauréat.
Vous savez, vous vous voyez toujours exercer la même profession dans quelques années? Quels sont vos projets d'avenir?
Alors oui, moi, c'est un métier qui est vraiment ma passion. C'est quelque chose que j'ai voulu faire assez tôt dans mon parcours. Dès l'âge de 18 ans, quand j'ai commencé mes études d'anglais, c'est vers ça que j'ai eu envie de me tourner. Donc moi, pour moi, viser plus haut, ça a été dans les dernières années de commencer à travailler pour le cinéma. J'ai eu la chance qu'un distributeur français me fasse confiance pour faire les sous-titres d'un premier film, ce qui était un film irlandais qui s'appelait The Guard. En français, le titre français, c'est l'Irlandais, donc. Et suite à ça, maintenant, je travaille régulièrement pour ce distributeur. Et j'espère maintenant, voilà, élargir avec cette expérience, essayer d'aller démarcher d'autres distributeurs, aller essayer de proposer mes services à d'autres distributeurs pour faire plus de films cinéma.
Ah, je vous souhaite bonne chance pour votre carrière dans le cinéma. Je notais juste qu'entre The Guard et l'Irlandais, il y avait un grand décalage au niveau du titre. C'est vous qui l'avez choisi?
Alors non, une chose qu'il faut savoir, peut-être qui est importante à savoir et que les gens ne savent pas, c'est que ce ne sont pas les traducteurs qui choisissent les titres des films, ni les titres des livres qu'ils traduisent, puisque tout ça, ça relève en fait du marketing. Ce sont des choix extrêmement ciblés en termes de public visé et de sortie du film. Donc par exemple, je sais que pour The Guard, qui en fait en anglais d'Irlande, mais vous le savez sûrement Jessica, c'est donc Guard, c'est les policiers, puisque ça vient du gaélique Garda, qui veut dire donc qui veut dire policier. Donc The Guard, ça veut dire le flic. Et c'est voilà, c'est cette pour la sortie française, ils ont voulu, je pense, s'adresser à un public assez large. Donc ils ont appuyé sur le côté un peu sur le côté un peu folklorique de l'Irlande, par exemple sur l'affiche, ils ont redessiné l'affiche aussi, ils ont redessiné l'affiche en mettant un trèfle irlandais pour bien voilà signifier qu'on allait parler de quelque chose qui allait se passer en Irlande et qu'il allait s'agir d'un décalage entre un Irlandais et un Américain et que ça allait amener des situations comiques. Donc on a voulu, je pense, élargir le public pour cette sortie-là, et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce terme en fait assez général.
Donc le choix des titres, donc des films et des livres, ne vous appartient pas.
Non.
C'est un choix commercial et culturel.
Exactement. Nous ne décidons jamais des titres. Alors quelquefois, on le regrette beaucoup parce qu'on trouve que certains titres sont totalement idiots. Surtout quand en France, c'est une espèce de mode en France. Je ne sais pas pourquoi, mais certains commerciaux chez les distributeurs trouvent intelligent de traduire un titre anglais par un autre titre anglais en français.
Voilà, qui sera prononcé à la française.
Qui sera prononcé dans un français, avec un accent français horrible. Donc, si quelqu'un m'entend chez les distributeurs, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça parce que nous, ça nous écorche les oreilles.
Exactement. Je donne toujours à mes étudiants l'exemple de Spider-Man qui devient Spider-Man.
Oui.
Et Daredevil qui est Daredevil. Et ils sont toujours morts de rire.
Oui, c'est sûr. Mais quelquefois, c'est même pas seulement la prononciation qui varie. Par exemple, il y avait un film au milieu des années 90 qui s'appelait Wild Things. Alors évidemment, c'est vrai qu'en français, c'est très difficile à prononcer, et qui, je crois, en français s'appelle Sex Intention. Sex Intentions.
Ah, d'accord.
Et voilà, donc quelquefois, on traduit un titre anglais par un autre titre anglais. Quelquefois, qui n'est même pas vraiment de l'anglais, on ne sait pas trop ce que c'est. Et je ne sais pas, je pense que l'anglais en France a une image assez cool. Et donc, on pense
c'est la mode.
Voilà, c'est à la mode, ça fait cool. De traduire des titres anglais par d'autres titres anglais.
Et inversement, tous les mots français ici ont une connotation très chic.
Oui, souvent, pour tout ce qui est la haute couture ou le vocabulaire de la cuisine, de la gastronomie. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes qui sont empruntés au français.
Oui, c'est amusant, je pense que ça mériterait presque un livre ou un article à part entière.
Oui, absolument, avec toutes les perles, tous les titres les plus étrange, choisi par les commerciaux.
Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou un message que vous voulez faire passer à ceux qui vous écoutent?
J'aimerais dire que la traduction, c'est un très beau métier. S'il y a des personnes qui veulent se diriger vers ce métier, quel que soit le domaine de traduction d'ailleurs, c'est vraiment très enrichissant, ça demande beaucoup de maîtrise de la langue, des langues, mais aussi de sa langue à soi, puisque moi je travaille uniquement donc vers le français, vers ma langue maternelle, donc j'écris du français toute la journée. Donc traduire, ça n'est pas seulement bien comprendre l'original, c'est aussi savoir le retranscrire, donc avec en disposant de la palette de sa langue la plus large possible, toujours en essayant retranscrire toutes les nuances, les subtilités d'une langue à une autre, et c'est ça qui est vraiment le plus passionnant.
Passionnant, en effet. Je vous remercie beaucoup, Anaïs, d'avoir accepté de partager et faire découvrir votre passion pour la traduction et adaptation sur French Voices.
Merci.
Je vous souhaite une très bonne continuation.
Merci, à bientôt, au revoir.
Merci, Anaïs, au revoir.
This is the end of our very first interview. So, did you use the transcript at all? How did you go with your French? Don't forget that I've designed some comprehension questions for you. If you would like to challenge yourself a little bit, go to the show notes on frenchvoicespodcast.com/episode1. Print them out and give it a try. If you've enjoyed this podcast and the supporting learning material, why don't you leave a review on iTunes to help other students discover French Voices podcast as well? If you do leave a review and send a screenshot of it to feedback@frenchvoicespodcast.com, I will put you in the draw to win a free online French lesson with me. The winner will be announced in the first episode of 2015. Thanks a lot, and see you in the next episode of French Voices.